Chers frères et sœurs, lorsqu'on pense à une personne de la famille royale qui possède la couronne impériale, on pense immédiatement à la famille royale d'Angleterre, précisément au roi Charles III. J'espère que beaucoup d'entre vous cette année ont vu le couronnement de Charles III. Cette magnifique couronne d'or, d'argent et de platine est ornée de 2868 diamants. Elle comporte également 273 perles, 17 saphirs, 11 émeraudes et 5 rubis. La couronne impériale contient également une variété de pierres précieuses. Frères, nous devons nous rappeler ce à quoi nous sommes formés, ce que nous serons dans un avenir très proche. Au début de la fête, pendant la soirée inaugurale, M. Weston a posé la question, pourquoi sommes-nous ici? J'espère que chacun de vous peut répondre à cette question. Nous sommes ici pour apprendre à craindre Dieu et aussi à nous réjouir. Pourquoi devons-nous nous réjouir? C'est que Dieu nous fait des promesses dans sa parole. Et la Bible est claire que nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Chers frères et sœurs, quelle bonne raison de célébrer, d'être en joie, de se réjouir, de savoir que Dieu va mettre fin aux misères du monde, de ce monde. Dieu a marqué un temps pour intervenir dans les affaires de ce monde moribond. Et Dieu va changer la course des choses et nous ferons part de ce grand changement. Dieu nous a appelés pour apprendre de lui-même afin qu'un jour nous soyons des rois, comme nous l'avions entendu à plusieurs reprises dans les sermons du premier grand jour et même la soirée d'ouverture. Chers frères et sœurs, c'est également important que nous continuions à éliminer le péché dans notre vie spirituelle, non seulement pendant les jours des Pessahs levains, mais pour le reste de notre vie, parce que Dieu prépare une couronne pour tous les membres du corps de Christ. Alors que nous nous préparons à devenir membres de sa famille royale, mais pour recevoir cette belle couronne, nous devons garder, nous devons pratiquer les commandements de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes ici. Dieu nous a demandé de laisser notre demeure afin de nous réunir ensemble pendant ces 8 jours. Mais pourquoi? Vous et moi, maintenant, nous n'avons pas besoin de nous tracasser par les soucis de ce monde. Nous n'avons pas besoin de nous tracasser par les soucis de notre employement, les soucis de quotidien que nous faisons face. Mais nous sommes ici afin d'apprendre de Dieu, mais il y a autre chose. Nous sommes ici en tant que famille. Nous sommes ici pour apprendre à nous aimer les uns les autres. Et Dieu nous a appelés tous pour faire partie de son corps, son Église. Chacun de nous est membre de son corps. Et Dieu est en train de nous préparer afin que nous puissions, à l'avenir, instruire les autres membres qu'il va appeler, les membres qui ne sont pas encore appelés, qui n'ont pas encore la connaissance de Dieu. Mais au moment opportun, Dieu va les appeler et ce sera notre part, ce sera à nous de les enseigner, de les éduquer du mode de vie de Dieu. Chers frères et sœurs, vous avez entendu le sermon « Un avenir fantastique ». Oui, notre avenir est fantastique. Oui, nous avons un avenir merveilleux. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tribulations, les angoisses que nous pouvons faire face aujourd'hui, nos épreuves, notre futur est merveilleux. Notre avenir est brillant. Non seulement notre avenir, mais l'avenir du monde. Parce que à ce moment-là, Dieu va ouvrir les yeux de tout un chacun à sa vérité. Et Satan, le diable, qui séduit l'humanité tout entière, ne sera plus là pour les séduire. Mais avant tout, chers frères et sœurs, vous et moi, nous avons un travail à faire. Notre travail à nous, c'est de forger notre caractère. Nous devons travailler sur notre caractère. Nous devons vraiment façonner notre caractère afin de devenir semblable à notre frère et de Jésus-Christ. Sans quoi, chers frères et sœurs, nous n'aurons pas, nous allons rater cette grande opportunité de recevoir notre couronne. Comme je l'ai toujours dit, Dieu nous a appelés dans son Église. Et le mot Église vient du mot grec ecclesia, appelé hors. Nous sommes appelés hors du monde pour un travail précis, un travail bien déterminé, afin de devenir semblables au Fils de Dieu, notre frère aîné. Reportons-nous maintenant à Apocalypse au chapitre 1, au verset 6. C'est le Christ lui-même ici qui nous parle. Et c'est encore une promesse qu'il nous fait dans Apocalypse chapitre 1, verset 6. Il dit, au verset 5, il dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Voilà notre destinée. Nous sommes appelés pour devenir des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. La question que j'ai pour vous ce matin, croyez-vous vraiment à tout cela? Croyez-vous vraiment que le jour viendra où vous serez couronné d'une couronne par Dieu lui-même et vous serez un roi jugeant le monde, dirigeant les affaires de ce monde? Avez-vous de telles prétentions? Pensez-vous que c'est peut-être bon? Ça, c'est de l'histoire, conte de fées, peut-être l'imagination. Avez-vous des doutes concernant la parole de Dieu? Croyez-vous vraiment que la Bible est la parole inspirée de Dieu? Si vraiment vous croyez que la Bible est la parole inspirée de Dieu, c'est que ces paroles sont véritables. Ses paroles sont vraies et Dieu va tenir ses promesses. Au moment opportun, vous recevrez la couronne de vie. Continuons maintenant à Apocalypse, au chapitre 2, verset 10. Dans Apocalypse, au chapitre 2, verset 10, ne crée pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Chers frères et sœurs, Notre frère aîné le Christ nous dit ici, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'intensité de la tribulation, soyez fidèles jusqu'à la mort, tenez ferme jusqu'à la mort. Et après, il nous fait une promesse, et je te donnerai la couronne de vie. Je te donnerai la couronne de vie. Un autre verset du même chapitre, au chapitre 2 de l'Apocalypse, verset 26, il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Je mets ici l'accent sur le mot à celui qui vaincra. Il faut vaincre. Nous devons être des vainqueurs. Et si, après avoir vraiment vaincu, il faut garder jusqu'à la fin les œuvres de Dieu. Parfois, on peut se demander, mais pourquoi chaque année on doit laisser sa demeure pour garder la fête des tabernacles pendant 7 jours et le dernier jour des pains sans levain? Pourquoi chaque année nous devons garder la fête des pains, la fête des pains sans levain, la Pâque? Chers frères et sœurs, Dieu pourrait nous appeler, nous dire, ah bon, ok, une fois ça suffit. Chers frères et sœurs, nous sommes en train d'être entraînés. Nous sommes dans une université. Vous savez, pour devenir médecin, vous ne pouvez pas imaginer, vous imaginez médecin. Bon, je suis médecin. Ça ne marche pas. Si vous êtes un agronome, si vous êtes un ingénieur, quoi que vous aimez être, vous devez aller à l'université. Vous devez étudier assidûment. Et c'est pas facile. Ça prend du temps. Il faut avoir de la patience. Si vous êtes au dernier jour à l'université, si vous décidez, bon, maintenant c'est trop dur, maintenant j'ai pas le temps, je vais laisser tomber. On ne va pas vous octroyer un titre de médecin. Vous pouvez être un médicastre, mais pas un médecin. Parce que pour être médecin, il faut étudier, il faut prendre du temps. Vous avez des lectures qu'il faut être très attentif pour écouter. Il y a, comme on dit, il y a les pratiques, ça c'est laboratoire. Il y a deux parties. Il faut apprendre, il faut écouter. Il y a la théorie et la pratique. Dans la théorie, vous écoutez, vous avez vos livres, il faut étudier. Et après avoir étudié, il y a des examens parfois hebdomadaires, des examens mensuels. C'est constamment, il y a toujours des examens à prendre. Pour vous éprouver, pour savoir vraiment, est-ce que vous aviez bien assimilé ce que vous aviez appris? Sans quoi, vous allez échouer. Et aussi, il y a la pratique. Il faut pratiquer. Voilà pourquoi on a les laboratoires. Les laboratoires, ça maintenant, il faut pratiquer, par exemple, pour la médecine, il y a ce qu'on appelle la grosse anatomie. Ça, c'est maintenant quand on dissèque des cadavres. Parfois, qui n'est pas vraiment joli, qui n'est pas vraiment agréable à voir. Quand on va disséquer des cadavres, et là, je me rappelle la première fois que j'ai fait face à des cadavres comme ça, installés sur des tables de marbre. C'était vraiment, non seulement effrayant, mais après avoir laissé, c'était vraiment les images pendant le soir, la nuit, et puis bon, on pense à ces images-là. Mais ça, c'est la pratique des choses. Imaginez-vous que vous êtes dans une salle d'opératoire, et puis quelqu'un va faire une opération sur vous, une opération chirurgicale. Et ce monsieur, ou peut-être cette dame, vous a dit, ah, bon, je vais essayer de vous opérer. Ah, c'est ma première fois. Je ne sais pas grand chose, mais je vais essayer, je vous promets, je vous garantis, je fais de mon mieux. Chers frères et sœurs, c'est pas ainsi. Et c'est ainsi que Dieu nous a appelés afin que nous apprenions à développer notre caractère, afin que nous puissions devenir comme le Christ. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme moi je suis du Christ. Suivez-moi. » Chers frères et sœurs, dans toute la Bible, nous apprenons que le Christ a travaillé avec son Père. Le Christ a respecté les commandements de son Père. Et le Christ nous a demandé de faire la même chose. Si nous sommes en communion avec Jésus-Christ, notre Sauveur, nous sommes en communion avec son Père. Nous devons nous préparer, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous sommes dans une université. Nous sommes en train de nous préparer afin que nous puissions être des rois. Vous savez, la Bible n'entre pas dans les détails de la couronne que Dieu prépare pour chaque membre du corps du Christ. Mais elle met l'accent sur ce que nous devons faire pour régner sur Jésus-Christ. Et comme je vous dis, chers frères et sœurs, nous devons vaincre. Mais comment vaincre? Nous devons sortir du monde. Nous devons vraiment prendre la décision. Vous savez, vous vous rappelez lorsque, dans Actes chapitre 2, lors de la fête de la Pentecôte, l'apôtre Pierre et les autres apôtres ont fait un discours. Après cela, les gens viennent auprès d'eux. Ils leur demandent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et l'apôtre Pierre et les autres apôtres disent, il faut se repentir, il faut se faire baptiser, et après cela, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, ce sont les étapes de la conversion. Mais la repentance, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire, ah bon, je me suis repenti, bon, tout est fini, bon, tout est bien. Je suis prêt pour le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est quelque chose que nous devons faire quotidiennement. C'est quelque chose que nous devons faire régulièrement. Nous devons nous examiner, nous devons nous analyser pour savoir, sommes-nous proches de Dieu? Et ce matin, j'aimerais vous donner une tâche, un travail à faire, comme on dit, devoir de maison. Ce que vous devez faire, c'est de vous examiner. Pour savoir, demandez-vous vous-même, êtes-vous plus proche de Dieu pendant cette fête de Tabernacle 2023 que l'année dernière? Vous n'avez pas besoin de me répondre. Je ne vais pas vous évaluer. Mais Dieu va vous évaluer lui-même. Parce que Dieu sait votre cœur. Il sonde les cœurs et les reins. Il sait ce qui se passe dans vos pensées. Il vous voit chaque jour. Pendant que vous êtes au lit, il vous regarde. Pendant que vous soyez au travail, au bureau, là où vous êtes, il sait vos actions. Il sait vos pensées. Les paroles que vous proférez, il le sait. Chers frères et sœurs, nous devons vaincre. Nous devons sortir de ce monde. Reportons-nous à Jean au chapitre 17, verset 16. Le Christ, notre frère aîné, pria son Père à notre issue. Il nous a dit ici, au Jean chapitre 17, verset 16, il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Si vous avez été appelé par Dieu, si vous avez pris du temps pour vous repentir devant Dieu, vous avez accepté de vous faire baptiser par le baptême d'immersion, vous avez reçu le don de cet Esprit de Dieu qui est une partie de lui-même, une portion de lui-même. Vous faites partie de ce groupe-là. Vous ne faites plus partie de ce monde. Mais vous appartenez à Dieu. La Bible vous appelle saint. Nous sommes saints parce que nous avons été appelés par Dieu. Nous avons été sanctifiés. Et nous sommes cet être humain désanctifié par sa parole. Reportons-nous à 1 Jean au chapitre 2, verset 15. 1 Jean au chapitre 2, verset 15. Voilà comment il faut vaincre, chers frères et sœurs. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, n'aimez pas le monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si vous aimez le monde, si vous avez votre cœur dans le monde, l'amour de Dieu ne peut être en vous. Vous et moi, chers frères et sœurs, nous avons un choix à faire. Notre choix, c'est de choisir entre Dieu et le monde. Parce que la Bible est claire, il nous dit que nous ne pouvons pas avoir les deux. On ne peut pas dire que, bon, je suis membre de l'Église, je suis fils de Dieu, et en même temps, nous sommes encore dans le monde, nous vivons comme le monde vit. Nos pensées, ce sont des pensées mondaines, des pensées charnelles, tout à fait charnelles. Continuons au verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, parfois on se demande, mais sortir du monde, que signifie sortir du monde? Ne pas être dans le monde. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Vous savez, chers frères et sœurs, c'est ce que le monde nous enseigne. La convoitise. Et vous les jeunes, vous savez fort bien que le monde vous dit que si vous ne pratiquez pas la fornication, vous n'êtes pas populaire. Si vous faites certaines choses que Dieu vous demande de faire, vous allez rater votre jeunesse. On vous dit maintenant, c'est maintenant ou jamais. Je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait une chanson comme ça. Et c'est maintenant, now or never. Maintenant ou jamais. Une chanson d'Elvis Presley, par ailleurs. Le monde est guidé par Satan, le diable. La Bible nous dit que le Dieu de ce monde est Satan, le diable. Et Satan, ce que Satan fait, il utilise notre nature charnelle. Et nous devons vaincre nos trois ennemis. Nous devons vaincre le monde, Satan, le diable, et notre nature charnelle. Parce que Satan, lui, ce qu'il fait, il utilise ces deux véhicules. Le monde et notre nature charnelle. Voilà pourquoi ici l'apôtre Jean dit ici, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, on est insatiable. On veut toujours avoir beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. On n'est jamais satisfait. Et voilà pourquoi il y a tant de monde, tant de gens malheureux dans notre monde. Je ne sais pas si vous apercevez ça dans les nouvelles. On parle beaucoup de suicides. Ça a augmenté les cas de suicide, a augmenté de partout le monde. Parfois quand je regarde les nouvelles, parfois, et même en lisant les journaux, on a 4, 5, 6 cas en un jour chez nous en Amérique. Et c'est triste de voir comment il y a des pères de famille maintenant qui éliminent toute leur famille et puis ils se suicident. Ça, c'est notre monde. Il y a tellement de gens qui sont découragés. Ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'il y a tellement de pression dans notre société. Quand on n'a pas assez d'argent, on vous regarde comme si, bon, et si vous êtes pauvre, vous êtes comme un chien. On vous maltraite. On fait de vous ce qu'on veut. Pas de respect. Maintenant, il n'y a plus de respect même pour la vie humaine. Et c'est notre monde. Et ça, c'est ce que l'apôtre Jean nous dit ici. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Ils ne voient pas Dieu. Dieu n'est pas sur le tableau. Dieu n'est. Ils vous disent que Dieu n'existe pas. Parce qu'ils pensent eux-mêmes qu'ils sont Dieu. Et les gens cherchent partout à chercher à se glorifier. Ils veulent la gloire. Voilà pourquoi nous avons tant de problèmes dans notre société. Partout où nous allons. La haine, les crimes, la violence, les préjugés, raciaux, toutes sortes de préjugés. Et parce que notre monde a préféré d'opter pour l'orgueil. Tout le monde est orgueilleux. Tout le monde veut se faire gros grand. Voilà, il y a tant de rivalités, tant de compétitions. Mais la Bible nous dit, Dieu nous dit, de ne point aimer le monde, de sortir du monde. Chers frères, vous et moi, nous devons faire de tout ce qui est possible pour nous, afin de nous approcher de Dieu. Nous devons regarder la bonté de Dieu. Nous devons nous focaliser sur ses plans, non seulement pour nous dans l'Église, mais pour toute l'humanité. Comment Dieu a un plan. Et voilà ce que représentent les fêtes annuelles. Quand nous avons célébré la Pâque, Dieu nous a rappelé comment nous sommes sortis du monde, notre repentance, notre baptême, et après cela, pendant les 16 jours des fêtes des Pères sans levain, nous apprenons à faire sortir du péché le chaînon, parce que le levain représente le péché, l'orgueil. Nous devons éliminer l'orgueil dans notre vie, complètement. Et aussi la Pentecôte, qui nous fait savoir que nous sommes les premiers les prémices de Dieu. La fête des trompettes nous rappelle l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, son retour, et aussi notre règne avec lui, la résurrection des saints, et surtout l'établissement du royaume de Dieu. Le jour des expiations que nous avions célébré la semaine dernière, qui nous rappelle que Satan sera mis en prison et nous serons un avec Dieu. Et maintenant, nous sommes ici à la fête des tabernacles pour célébrer le millénium, le règne millénaire de Dieu sur cette terre. Nous portons donc à Jacques au chapitre 1, verset 12. Nous devons nous devons avoir cette idée, cette résolution de persévérer jusqu'à la fin, d'aller jusqu'au bout. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous n'avons pas le temps pour jouer, nous n'avons pas le temps pour nous badiner avec les petites choses de ce monde, les choses que nous appelons des choses terre à terre, des choses triviales de ce monde. Dans Jacques chapitre 1, verset 12, dans Jacques chapitre 1, verset 12, je lis, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Chers frères et sœurs, vous savez la définition de l'amour, le vrai amour vient de Dieu. Un jour, un jeune homme riche était allé voir Jésus. Il lui a demandé, « Que dois-je faire pour entrer dans la vie? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui a dit, « Gardez les commandements. » Et nous savons les commandements de Dieu sont divisés en deux parties, en deux catégories. L'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain. Ici, nous avons lu que dans Jacques, que si nous aimons Dieu, pour recevoir la couronne de vie, il faut avoir l'amour envers Dieu. Mais comment aimer Dieu? Comment aimer Dieu? Nous aimons Dieu lorsque nous gardons ses commandements. Voilà pourquoi nous sommes ici à la fête des tabernacles. Voilà pourquoi nous pratiquons l'amour entre nous. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et l'un de ses commandements nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si nous disons que nous aimons Dieu et nous n'aimons pas nos semblables, nous n'aimons pas Dieu. Il y a des gens qui disent, qui prêchent qu'ils aiment Dieu. Mais ils vous disent qu'ils aiment Dieu, ils veulent servir Dieu à leur façon. Chers frères et sœurs, nous ne pourrons pas servir Dieu à notre façon. Nous devons servir Dieu à sa façon. C'est en faisant ainsi que nous exprimons notre amour envers lui. Nous ne pouvons pas choisir, bon, ok, Dieu a dit de pardonner aux autres, mais moi je ne veux pas. Je vais faire des choses selon mon gré. Ça ne marche pas avec Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons travailler pour notre couronne avec beaucoup de force, beaucoup de violence, comme le Christ nous a dit. Il nous a dit, ce sont les violents qui hériteront son royaume. Violent ici, quand il parle de violence, il ne s'agit pas de la violence physique, mais ça, c'est la violence spirituelle. Nous devons endurer patiemment, quelles que soient les circonstances, nous devons travailler sans relâcher à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Chers frères et sœurs, nous devons continuer, comme je vous ai dit tout à l'heure, à nous examiner quotidiennement. Nous devons nous demander, nous devons nous poser la question, est-ce que j'aime vraiment Dieu et son mode de vie de plus profond de mon cœur? Aimez-vous Dieu de tout votre cœur? Aimez-vous vraiment son mode de vie? Ou bien, peut-être que maintenant, bon, pendant la fête des tabernacles, bon, ça va. Une fois retourné chez vous, bon, ce sera autre chose. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de variation avec Dieu. Nous devons être consistants dans tout ce que nous faisons. Nous devons être des membres de l'Église pendant que nous sommes ici à la fête des tabernacles. Pendant que nous vivons dans le monde, partout où nous sommes, c'est notre attitude, nous devons avoir une attitude, tout en sachant que quand le moment sera opportun, nous serons changés et nous recevrons notre couronne de vie, notre couronne de gloire. Frère, est-ce que vraiment vous cherchez à éliminer le péché de votre vie? Vous savez, les hommes qui font des bijoutiers, les bijoutiers savent les meilleurs diamants. Si vous avez vous avez un bijou, vous prenez ce bijou, vous allez chez un bijoutier, il peut vous dire la qualité de votre bijou. Et ils savent vraiment les meilleures perles, les meilleurs rubis, émeraudes et autres pierres précieuses. Et chers frères et sœurs, c'est ainsi que Dieu nous éprouve chaque jour parce que nous devons être éprouvés. L'apôtre Paul nous a dit que nous sommes comme un morceau d'or aux yeux de Dieu. Et vous savez, pour purifier l'or, il faut passer l'or par le feu. Quand vous jetez un morceau d'or sur le feu, il faut voir comment les impuretés se révèlent. Et c'est ce que vous êtes. Nous partons à Proverbe 31, chapitre 10. Ici, la Bible décrit la beauté de la femme vertueuse. Et il y a beaucoup de leçons à tirer de ce verset. Dans Proverbe chapitre 31, verset 10, nous lisons, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Car sa valeur dépasse celle des rubis. » Vous savez, il y a beaucoup, et les dames dans cette salle, vous savez, votre qualité dépasse les rubis. Vos œuvres, ce que vous faites, votre beauté. Vous savez, c'est ce que la Bible nous a dit. Vous savez, chers frères et sœurs, il n'y a pas vraiment une différence entre la vertu, une femme vertueuse, et une femme qui aime Dieu, qui sait vraiment qu'elle fait de son mieux pour adorer Dieu, pour servir. Et au point de vue spirituel, l'homme est le chef de la femme, comme la Bible nous l'a dit. Mais nous, les hommes, nous avons beaucoup de choses à apprendre des femmes. Parce que ici, comme la Bible nous dit ici dans Proverbe 31, verset 10, une femme vertueuse a plus de valeur que les rubis. Ah, ça, c'est magnifique. Une femme qui vraiment qui est à côté de son mari pour l'aider, pour travailler avec lui, ça c'est la vertu, c'est une vertu. Ça a beaucoup plus de valeur que des rubis. Ça c'est cette beauté que la Bible nous parle. Alors je vous encourage à lire attentivement Proverbe 31 et même d'avoir une étude de médecine biblique. En utilisant une analogie, j'aimerais utiliser le caractère comme les diamants et autres pierres précieuses que Dieu pourra utiliser pour concevoir et créer une belle couronne de beauté pour chacun de nous. Rappelez-vous que l'analogie que je fais, que la couronne est spirituelle et elle est faite de caractère. C'est notre caractère, c'est votre caractère. Et ici, en Proverbe 31, la Bible nous parle d'une femme vertueuse qui est plus précieuse que des rubis. Et Mais plus loin dans Proverbes chapitre 19, verset 14, la Bible nous parle encore ici une autre chose, une autre femme. Dans Proverbes chapitre 19, verset 14, il dit, « Les maisons et les richesses sont l'héritage des pères, mais une femme prudente vient du Seigneur. » Vous savez, dans notre société actuelle, les hommes méprisent les hommes qui ne sont pas sexuellement actifs. Ce, c'est encore le travail de Satan. Il y a beaucoup de pression pour les jeunes. Il y a beaucoup de pression même pour ceux qui sont mariés. Il faut dire, ah bon, et c'est normal. De par contre, on enseigne même parfois que l'adultère est bon pour le mariage. Il faut dire que c'est bon pour la santé, la santé psychique. Il faut dire que c'est normal d'avoir une liaison en dehors de votre mariage. Ce sont là, chers frères et sœurs, des le monde où nous vivons, les astuces de Satan le diable. Parce que Satan sait pertinemment ce qu'est le mariage. Dieu a créé le mariage qui est une union entre l'homme et la femme et pour élever des enfants heureux. Mais quand la famille est brisée, quand il y a de l'adultère, ça c'est autre chose. Il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de souffrance, et chers frères et sœurs, c'est ainsi que vous et moi, lorsque nous prenons en garde à certaines choses, nous nous convergeons en gardant les commandements de Dieu, en disant que bon, je vais vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand en se consacrant à faire la volonté de Dieu, on n'est pas exposé, on ne peut pas faire certaines choses. Et c'est qu'on va éviter les influences de Satan, le diable, et les influences de ce monde. Et c'est notre nature Chanel, parce que ça, c'est ce que Satan fait. Il nous dit que, ah bon, pas de problème, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, tu n'as pas besoin d'écouter Dieu. Nous devons sortir du monde. Nous portons-nous à 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 18, ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Il nous dit ici, fuyez l'immoralité sexuelle. Chers frères et sœurs, nous devons apprendre à avoir la maîtrise de soi, à fuir les tentations de ce monde, du monde, parce que c'est ce que Satan utilise. Mais nous devons fuir, nous devons prendre la décision de fuir. Vous jeunes, si vous êtes dans une situation que vous pensez qui est compromissant, vous allez vous compromettre votre vie spirituelle. Fuyez. Même si ça, c'est pas populaire. Même si on va se moquer de vous. Parce que votre vie spirituelle est plus importante que, je dirais même, l'accompagner de certains amis. L'apôtre Paul nous dit dans, ici, et il va plus loin, il nous dit que fuyez la débauche, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Et un peu plus loin, il dit au verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Au verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Chers frères et sœurs, c'est quelque chose que nous devons faire constamment. C'est pas quelque chose qu'on peut faire. Bon, ok, maintenant je glorifie Dieu dans mon esprit pendant que je suis à la fin des tabernacles. Pendant les 5 jours, les 7 jours. Non. Nous devons continuer sans relâcher. Nous devons fuir les passions de ce monde. Nous devons fuir ce qui arrive, ce qui se passe dans le monde. Jésus-Christ nous a laissé des exemples. Jésus-Christ a vécu sa vie et il n'a jamais commis de péché. Jésus-Christ a vécu sa vie en tant que jeune homme. Malgré tout ce qu'on pourrait dire de lui, il a gardé son corps pur, son corps saint. Et vous, jeune homme, dans l'Église, je vous conseillerais d'avoir les yeux sur le Christ, sur Jésus, comme votre frère aîné. Il est votre exemple. Ne cédez pas. Ne cédez pas aux pressions de ce monde. Sortez du milieu de ce monde. Vous, hommes mariés, quoi qu'on vous dise que ça c'est bon pour votre psychologie, ne les écoutez pas. Vous, femmes mariées, soyez fidèles à votre mari. La Bible nous donne vraiment une recette. Homme, aimez votre femme. Femme, soyez soumise à votre mari. Enfant, obéissez à vos parents. Et c'est ainsi que, chers frères et sœurs, nous allons vaincre. Et nous devons continuer à marcher humblement avec Dieu. Nous ne pouvons pas nous laisser influencer par quoi que ce soit, parce que ce que les gens disent, les politiques de ce monde, comme nous le voyons dans plusieurs pays, dans plusieurs sociétés, c'est la destruction. Ces gens-là inspirent la haine, l'animosité, et Dieu nous dit de ne pas avoir en nous les sentiments négatifs, ces sentiments négatifs. Parce que tout cela ne va pas apporter la paix au monde. Dieu a un plan pour notre monde. Dieu a un plan. Il va intervenir dans les affaires de ce monde. C'est le Christ qui viendra en tant que roi et nous serons avec lui. Mais c'est pas notre temps maintenant. Nous n'avons pas le temps maintenant de nous vaquer, de chercher les petites choses de ce monde. Il y a des gens, même dans l'Église, qui se sont vraiment, ils ont beaucoup d'intérêt dans des choses politiques. Et quand on va sur Facebook et puis on voit des choses, je vous conseillerais de vous abstenir de ce genre de choses. Quand il y a de la rivalité, quand il y a la haine, quand il y a des sentiments de doute, de destruction, ces choses-là viennent de Satan, le diable. Nous devons garder notre corps sain, nos pensées saintes devant Dieu. Nous devons chercher comment plaire à Dieu. Le Christ a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Avez-vous le cœur pur? Si vous n'avez pas le cœur pur, je vous demanderai d'aller vers Dieu, afin de demander à Dieu de vous aider, parce que vous et moi, nous avons besoin d'avoir un cœur pur. Et je vous le dis à toute franchise, si vous n'avez pas le cœur pur devant Dieu, Dieu n'écoute pas vos prières. Et si Dieu n'écoute pas vos prières, vous êtes sur la mauvaise pente. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans sa force, sans sa puissance, sans son amour, sa miséricorde, vous et moi, nous ne sommes rien. Déjà que vous et moi, nous ne sommes que poussière. Nous sommes que le corps physique, ça c'est un corps, c'est temporaire. Mais Dieu, c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui façonne notre avenir. C'est Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Par ailleurs, la Bible nous donne des prophéties. Ce sont les prophéties bibliques. Cela va être empiré en ce qui a trait au monde, le monde où nous vivons. Il n'y a pas vraiment, pas de solution au problème de ce monde. La seule solution, c'est le retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et vous et moi, Dieu nous a appelés afin que nous apprenions de lui ce qui va arriver dans le futur. Et nous devons nous préparer pour ces choses-là. Et nous devons prier à Dieu de nous aider chaque jour, de nous aider à nous rapprocher de lui. Nous devons nous examiner au plus profond de nous-mêmes, sans regarder les autres. Parfois, nous avons cette tendance de nous comparer avec les autres. À moi, pour moi, je suis tout à fait correct. Je suis parfait. Ah oui, mon voisin a besoin. Il a du travail à faire. Il a du pain sur la planche. Chers frères et sœurs, chacun de nous a du travail à faire. Nous devons être responsables de ce que nous faisons, de notre relation avec Dieu. Comme nous l'avions appris hier dans le sermon du premier jour. Nous avons notre responsabilité, nous avons notre part à faire. La parole de Dieu nous encourage à ne pas juger les uns les autres. Parce que en faisant cela, nous pouvons nous tromper en pensant que nous sommes meilleurs que les autres. Nous ne sommes même pas meilleurs que les gens de ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu nous a appelés. Nous avons la connaissance, mais le monde extérieur n'a pas encore été appelé par Dieu. Dieu, lui, il va intervenir dans les affaires de ce monde. Mais ce n'est pas à nous de juger le monde à ce moment-là, à présent. Je veux vous porter à Luc au chapitre 6, verset 37. Vous pouvez lire ça. Luc, chapitre 6, verset 37. Le Christ nous dit ici, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Ça, c'est notre devoir à nous. C'est notre devoir. Nous prions, nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et chers frères et sœurs, vous et moi, nous avons du travail à faire. Et notre responsabilité, c'est de continuer à travailler afin de recevoir notre couronne spirituelle. Et nous devons commencer, même pendant la fête des tabernacles, à nous examiner, à nous préparer pour la Pâque de 2024. Vous allez dire, ah non, mais je suis à la fête des tabernacles, je suis en train de me réjouir, et vous parlez de la Pâque. Chers frères et sœurs, nous devons nous préparer, nous devons toujours être prêts. Parce que sans quoi, sans reconnaître le sacrifice de Jésus, nous ne pouvons pas aboutir à la fête des tabernacles. Le Christ a payé nos péchés, l'amende de nos péchés. Non seulement nos péchés, mais les péchés de tout le monde. Voilà pourquoi nous pouvons dire maintenant, oui, il y aura le millénium, parce que ça c'est, il faut voir les étapes. Et toutes les fêtes de l'Éternel représentent, chaque fête représente une étape du grand plan de Dieu. Soit la Pâque, soit la Pentecôte, l'expiation, tout. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous encourage à faire une étude biblique sur la vie de Joseph. Joseph était un homme obéissant à Dieu, qui n'avait fait aucun mal, mais Dieu l'a laissé souffrir, l'a laissé passer certaines épreuves. Mais vous savez l'histoire, vous pouvez lire ça dans Genèse, chapitre 37 à 35, comment Joseph a été vendu par ses frères. Il a été mis en prison, mais Joseph a résolu dans son cœur de garder les yeux sur Dieu, sur ses commandements. Même quand la femme de Potiphar, la femme de son maître, voulait avoir une relation avec lui, elle a essayé de lui séduire, mais il a refusé. Voyez comment ce serait glorieux pour lui. Imaginez, vous jeunes, vous allez dire à vos amis, ah bon, ok, voilà ce que j'ai fait. Mais non. Chers frères et sœurs, nous devons avoir ces mêmes pensées. Toujours avoir les yeux sur Dieu, à garder ses commandements. Joseph a refusé, malgré tout ce qu'il a subi, il n'a jamais tourné le dos vers Dieu. Il a résisté. Et à la fin, qu'est-ce qui était arrivé? Il a reçu la gloire. Dieu l'a glorifié. Et vous savez bien l'histoire, et je ne vais pas tourner, mais vous pouvez vous-même prendre du temps. Imaginez-vous être à la place de Joseph. Si vous êtes un Joseph, vous, jeunes hommes de l'Église, vous, messieurs de l'Église, vous, jeunes filles de l'Église, vous, femmes, dames de l'Église, vous serez victorieux. À la fin, Dieu vous donnera votre couronne. Dieu vous donnera une place, un trône, et vous régnerez avec lui, avec son fils Jésus-Christ. Et je suis certain que la couronne spirituelle de Joseph comportera de nombreuses pierres précieuses, pleines de diamants, de rubis et d'émeraudes. Nous devons aller vers l'avant. Et nous devons savoir que Dieu est en train de regarder notre travail. Il nous évalue chaque jour. Maintenant, avant de terminer un dernier verset, nous retournons à Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Notre frère aîné, lui qui a donné sa vie en rançon pour nous, il a payé l'amende de nos péchés, afin que nous ayons la vie. Il nous parle ici, dans Apocalypse chapitre 3, verset 11. Il nous dit, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et je dirais la même chose à chacun de vous. Retenez ce que vous avez, car le temps est proche, afin que personne ne prenne votre couronne.